Bienvenue à notre exploration des coulisses de la politique municipale ici au Québec. Aujourd'hui, on se penche sur un document « Regard sur la politique » qui dresse un portrait assez intense du monde municipal. On parle de crise, de citoyens, disons plus présents, mais aussi plus critiques. Notre but, c'est de décortiquer un peu les relations Québec-ville-citoyen, puis voir comment ça affecte notre quotidien.
Exactement. Puis ce que les sources montrent bien, c'est une tension pas mal partout. La gouvernance locale, là, les élus sont sous pression, les citoyens s'impliquent, oui, mais il y a de la méfiance. Les règles du jeu changent tout le temps, on dirait.
OK, bon, déballons ça. Le document parle d'un triumvirat. Québec, le municipal, puis les citoyens. Commençons par Québec et les villes. La relation tendue, le document dit un peu parent-enfant.
Oui, c'est une bonne image, ça. Québec contrôle pas mal les compétences, les finances des villes, fait que ça crée de la méfiance, c'est sûr. On l'a vu avec l'histoire de la vérification des hausses de taxes là, en 2023. Puis ajoute à ça la complexité administrative. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a été séparé, même un ministre juste pour Montréal. Ce qui frappe aussi, c'est que les ministres des Affaires municipales, ils restent pas longtemps en poste, alors que les dossiers sont hyper complexes.
Ah ouais. Et pendant ce temps-là, au niveau municipal, les élus, eux, ils jonglent avec d'énormes défis. La crise du logement, c'est majeur. Les infrastructures qui vieillissent. L'urgence climatique. Puis, de plus en plus, ils se ramassent avec des enjeux qui dépassent leur champ habituel, genre la santé, l'éducation.
C'est ça. Puis en plus, il y a la judiciarisation. De plus en plus de poursuites. On peut penser à des cas en environnement, en urbanisme. Comme à Brossard, par exemple, avec des litiges sur l'impact du développement. Puis l'autre affaire, c'est l'intimidation. Les chiffres dans le document sont assez frappants. Une hausse de 25 % des signalements de harcèlement d'élus en 2019 et 2021.
Wow! 25 %! C'est énorme! Puis les 55 maires qui démissionnent en 18 mois après les élections de 2021, ça monte bien la pression, hein? Ça a même mené une assurance provinciale pour aider avec les frais juridiques des élus.
Exact.
Alors, face à tout ça, les citoyens se situent où? Les sources disent plus instruits, plus impliqués, mais...
Aussi plus impatients, c'est vrai, plus critiques, très actifs sur les réseaux sociaux, ça c'est clair. La confiance générale envers les institutions, elle diminue. Souvent, c'est lié à l'impression de lourdeur, de bureaucratie. C'est un peu à double tranchant, tu sais. D'un côté, on voit des dérives, des insultes, des menaces contre les élus. Ça, c'est inquiétant. Mais de l'autre, il y a des initiatives citoyennes super constructives, le collectif G50, plus des mobilisations locales pour protéger des terrains.
Oui, et puis cette implication citoyenne, ça nous amène direct à la démocratie participative. Et là, les sources soulèvent des paradoxes. On voit des cas où juste quelques citoyens peuvent bloquer des gros projets avec un référendum, comme à Pierrefonds ou Pointe-Claire pour des projets près des futures stations du REM. C'est de là que vient le mouvement IMB, oui dans ma cour, qui essaye un peu de contrer le fameux NIMBY, le pas dans ma cour.
Tout à fait. Puis le document, il relaie une critique assez forte de ces mécanismes participatifs. On parle de présentocratie, c'est-à-dire que c'est surtout ceux qui se présentent qui parlent, puis c'est souvent les mêmes profils, des retraités, des propriétaires. Ça peut biaiser la discussion, forcément. On note aussi qu'on ne sait pas toujours ce qui arrive après les consultations, genre le suivi n'est pas toujours clair. Même l'OCPM à Montréal, qui est souvent vu comme un modèle, même lui reçoit des critiques.
Devant ces défis-là, est-ce que les sources proposent des pistes? On parle de réformer la LAO, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Oui, la LAO, c'est la grosse loi qui encadre comment nos villes grandissent. Il y a des discussions là-dessus. Il y a aussi des initiatives plus locales, genre à Prévost, pour ajuster les règles des référendums.
Mais tout ça, ça pose des questions de fond, non? Qui décide, finalement? Les élus, les fonctionnaires avec leur expertise technique. Quelle place on donne au privé versus le public?
Exactement. Puis l'impact des médias, sociaux ou traditionnels, c'est immense là-dedans. Ça peut vraiment polariser le débat. Sans oublier nos propres biais, tu sais, comment on perçoit l'information.
Les sources insistent aussi sur l'éthique. Pas juste les règles sur papier, mais l'esprit. Un peu dans la foulée de la commission Charbonneau ou ce que dit l'éthicien René Villemort. Puis ça inclut aussi une éthique citoyenne. La responsabilité de s'informer, de faire attention à la désinformation.
Tout à fait. Ce qu'on voit à travers tout ça, c'est vraiment la complexité de gouverner une ville aujourd'hui. Il y a une tension fondamentale qui ressort. Comment on fait pour concilier l'expertise, la vision à long terme pour le climat, l'urbanisme durable, avec la démocratie directe ou participative qui, elle, peut parfois amplifier des intérêts très locaux, très immédiats?
Ouais, c'est une bonne question. Le document demande justement si on devrait faire des sondages sur tout, genre la densité d'un quartier ou le tracé d'une piste cyclable, quand ces décisions-là impliquent des choix techniques, mais aussi des valeurs collectives complexes.
Puis ça nous laisse avec une question pour la suite, je pense. Dans ce climat de méfiance, de polarisation, comment on fait pour prendre des décisions qui sont à la fois, éclairées puis légitimes? Des décisions pour le bien commun à long terme qui dépassent juste la somme des intérêts individuels ou l'opinion du moment.
Voilà, qui donne vraiment matière à réflexion. Merci d'avoir plongé dans ces sources avec nous aujourd'hui.